Il y a une phrase un peu étonnante qui dit que Jésus est donné à son Église. Jésus est donné entièrement à l'Église. Et c'est une expression qui n'est pas bien traduite souvent dans les Bibles. Mais Dieu le Père donne Jésus à l'Église entièrement. Au point qu'on peut en faire en quelque sorte un peu ce qu'on veut. Et on a son corps, on a son âme avec nous. Et l'Église va continuer l'œuvre du Christ parce qu'elle l'a avec elle. Et il y a une union complète et parfaite entre le Christ et son Église. Et l'Église est le prolongement du Christ. Elle est son corps. Elle va continuer son œuvre. Il n'y a pas que le Christ qui est donné à l'Église. Il y a aussi l'Esprit Saint. Jésus ne cesse de l'annoncer pendant tout le... en particulier dans l'évangile de Saint Jean, dans son long discours d'adieu. Il dit, je vais vous envoyer un paraclet. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Vous ne pouvez pas tout comprendre pour l'instant, mais je vous enverrai un esprit qui vous aidera à tout saisir ce que je vous ai enseigné. Et enfin, quand est-ce qu'il dit que l'Esprit Saint est donné, finalement? Alors à la croix, il donne, il souffle, vous savez, il baisse le visage comme ça, et puis on dit, il
rendit l'Esprit.
Alors les pères de l'Église y ont vu le don de l'Esprit Saint une première fois là, et c'est dit de manière plus explicite encore à un autre passage de l'Évangile. Comment ?
La Pentecôte.
Juste avant l'ascension, dans Saint Jean.
Ah si, il leur dit, je vous envoie.
Je vous envoie l'esprit. Ouais. Enfin, quelqu'un va nous précéder, je sais pas
quoi. Ouais, il souffle sur eux et il dit, recevez l'Esprit Saint. Alors je vous lis le passage dans Saint Jean. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit, paix à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce don de l'Esprit Saint est fait, et il est bien fait. Mais il va avoir une manifestation visible de ce don au moment de la Pentecôte. Je vous lis ce passage qu'on entendra ce soir, à la messe. Et j'aimerais que vous activiez votre mémoire biblique. Donc à chaque fois que je lirai un verset, il faut que vous me disiez à quoi ça vous fait penser dans la Bible. Dans l'Ancien Testament en particulier. Tout ce qui vous vient à l'esprit, vous me le dites. Alors, pour rappel, l'Ancien Testament, il y a Adam et Ève. Il y a la création d'abord. Il y a Adam et Ève. Il y a Abraham. Après, il y a Jacob. Il y a Isaac. Le sacrifice d'Isaac. Il y a Rachel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Il y a le roi David. Les psaumes. Le prophète Élie. Voilà, bon, essayez de vous souvenir de tout ça. Il y a Noé aussi. Bon. Premier verset. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Alors, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous souvenez dans l'Ancien Testament où plein de gens sont dans un même lieu? Une chose, deux choses. Oui, dans l'arche de Noé. Oui, c'est ouais. Si, bah si, oui. Alors il y a toute la famille de Noé au moins dans un même lieu. Très bien, oui.
L'Exode.
Dans l'Exode, ils sont tous dans un même lieu. Oui, pour partir. Mm. Très bien, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, deux choses, c'est déjà pas mal. Oui, très bien. Verset 2. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Allez, deux, trois choses qui vous viennent à l'esprit.
Le buisson ardent.
Ouais. Le buisson ardent. Ouais. Et pourquoi alors?
Bah, le
il y a un tonnerre.
Ah, un violent coup de vent.
Ouais.
Ah oui, il entend du vent, de fait. Oui, très bien. Quoi d'autre?
Le prophète Élie, quand il demande la pluie, il n'y a pas de vent, mais il y a la pluie.
Si, alors si, mais en lien avec le prophète Élie, à un moment il dit à Dieu, montre-moi ta face.
Dieu n'était pas dans le,
ah oui.
dans l'ouragan, il était dans la brise légère, c'est ça?
Oui, très bien. Oui, ouais, donc alors c'est pas un violent coup de vent, mais c'est un coup de vent au moins. Oui, très bien. Ou est-ce qu'il y a du bruit qui vient du ciel ou un coup de vent? Comment? À la mort de Jésus. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Ah oui, très bien. Il y a un tremblement de terre. Il y a le ciel qui s'assombrit. Oui. Très bien. Quoi d'autre alors? Il y en a qui n'ont pas participé encore.
Pendant l'Exode aussi.
Oui, pendant l'Exode, il y a quoi?
Ils montent sur la montagne pour parler avec Dieu.
Avec Dieu. Oui, très bien. Et là, il y a tous ceux qui sont en bas qui se disent, Moïse, il a été foudroyé, détruit, il y a un tel bruit. Ils ont tous peur, ils rentrent dans leur tente et pendant que Moïse est là-haut en face de Dieu et dans cet univers fou très brillant avec des tonnerres, des coups de tonnerre et des trompettes, il y a un peu de ça, oui, violent et qui vient du ciel, un grand bruit. Bon, très bien, essayez de garder tout ça dans votre mémoire parce que c'est important. Quand le Saint-Luc écrit ce passage, il a tout ça dans la tête. Mais vous voyez, il y a c'est beaucoup les coups de vent sont beaucoup liés à Dieu, cette présence de Dieu derrière le prophète Élie, là-haut sur la montagne avec Moïse. Donc quand on entend
aussi,
quelque chose qui vient du ciel. Oui. Alors.
Oui, un fort vent d'est.
Ah, il y a peut-être un fort vent d'est alors.
Qui,
oui,
c'est vrai. Coupe la mer en deux.
Très bien. Oui. Probablement que Saint-Luc, il sait que vous avez tout ça en tête et il vous dit, voyez tout ce que ce vent a fait dans l'Ancien Testament, il va trouver son accomplissement là dans le Nouveau Testament. Alors je vous dis, je vous explique ce qui s'y passe. Très bien. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Alors ça, c'est plus difficile, je pense. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Ça, c'est moins évident. Bon, il y a le feu au moins.
Ah, il y a encore la colonne de feu pendant l'Exode, quand il sépare la mer Rouge.
Oui, c'est vrai.
De feu.
Quelque chose qui se pose sur chacun d'eux. Alors, c'est pas le feu directement, mais on l'a entendu dans une lecture de messe il n'y a pas très longtemps. Il y a un vent ou il y a quelque chose du ciel qui se pose sur chacun des membres de l'assemblée.
Ah, quand ils prophétisent dans le camp.
Oui.
Oui.
C'est dans l'Exode. Au moment où Moïse s'en sort plus, il faut qu'il juge tout le monde et ils viennent tous le voir pour dire ouais, il m'a piqué mes billes, est-ce que et comment on fait pour les récupérer? Lui, il a eu plus de manne que moi. Et Moïse, c'est la catastrophe. Et il demande au Seigneur, je ne vais pas m'en sortir. Et alors, en fait, le Seigneur ne va pas lui répondre. Il va voir, c'est intéressant, il va voir son beau-père qui s'appelle Jéthro, qui n'est pas du tout hébreu et qui est plutôt païen. Mais c'est lui qui va lui donner un des meilleurs conseils de toute la Bible. Il dit, tu ne vas pas t'en sortir tout seul. Donc, tu demandes à ton Dieu de t'aider. Et de répartir la tâche sur plusieurs. Et là, il y a une part de l'esprit qui va être donnée à chacun à 72 des anciens du peuple. Donc il y a quelque chose de ça. Donc ça veut dire qu'il y a une part du jugement qui va peut-être être donnée là dans cet acte des apôtres. Il y a un don de l'esprit qui est fait à la manière de Moïse et des Hébreux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qui est rempli de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament?
Les prophètes.
Oui, les prophètes. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le roi David, oui. Plusieurs fois, il est saisi par l'esprit. Alors, pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau.
Marie.
Oui, il y a Marie qui est remplie de l'Esprit Saint. Ouais. Et on en voit les fruits, alors on se dit, tiens, ça va être chouette. Et nous, on est remplis de l'Esprit Saint aussi.
Il y a les apôtres, du coup, ils sortent aussi.
Mmh. Ah oui, alors ça, on va voir là. Et parler en plein de langues, ça... Pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, moi, je vois pas de choses particulières.
Si, à la reine.
Babel. À la tour de Babel, mais là, du coup,
ouais.
c'est l'inverse.
Ouais, bah très bien. Et bah ça, je vais parler de ça, justement. Très bien. Oui, bah très bien vu. Oui. Alors, verset 5. On est au chapitre 2, hein. Retenez, Pentecôte, chapitre 2, de quel livre?
C'est...
Non, pas l'évangile. Non.
C'est...
Comment?
Ah oui, non, pas l'évangile.
Oui, les actes des apôtres. Acte 2, verset 1 à 11. Verset 5. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui, donc on retrouve tous les peuples. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre, « Que peut bien être cela ?» D'autres encore disaient en se moquant, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, on peut retrouver une vingtaine de lieux bibliques sous-entendus par ce récit de la Pentecôte. Les auteurs du Nouveau Testament sont des gens qui connaissent sur le bout des doigts l'Écriture. Donc c'est parfois implicite, c'est qu'eux-mêmes vont reporter dans leur texte des passages qu'ils ont en mémoire, mais souvent c'est explicite et c'est voulu, volontaire. C'est que quand Jésus dit il est là pour accomplir les Écritures, c'est pas seulement sur quelques points, c'est un accomplissement réel et complet de toute l'Écriture. Et les évangélistes ont voulu manifester ça, la réalisation de toutes les promesses de l'Ancien Testament, qui vont trouver leur accomplissement, leur finition, leur aboutissement en Jésus-Christ. On a oublié cet esprit qui planait sur les eaux dans la Genèse. On a cette présence de l'esprit qui est déjà là. Qu'est-ce qui est rempli de l'Esprit-Saint, là, dans les actes des apôtres? La maison est remplie de l'Esprit-Saint. Ça, vous êtes d'accord? Vous avez entendu? Dans l'Ancien Testament, ce qui est rempli de l'Esprit-Saint, c'est souvent le temple. Il y a un souffle de Dieu, une présence de Dieu qui vient remplir de gloire le temple, son temple. Et qui dit, puisque là il y a ma gloire, ça veut dire que j'y suis. Sinon, c'est juste une œuvre faite de main d'homme, et ça ne vous intéressera pas. Mais si j'y suis, alors c'est là où vous pourrez me rencontrer. Il y a le feu qui descend du ciel lors du sacrifice d'Élie. Élie va offrir un... il va se confronter aux prophètes, aux faux prophètes qui sont 400, et il dit bah, alors invoquez votre Dieu avec un sacrifice, et puis moi je vais invoquer mon Dieu, et puis on va voir qui gagne. Et si le premier qui gagne, eh ben, il aura l'adhésion de tout le peuple. Et en fait, il va se moquer d'eux parce qu'ils vont devoir danser autour de leur autel, ils vont se flageller, ils vont se mortifier pour. Essayer d'invoquer la présence de Dieu, puis ça va pas marcher. Et ça vous dit rien, ça, ce passage?
Il rajoute de l'eau sur sa viande.
Quoi, il rajoute de l'eau sur la table, sur la table du sacrifice, sur la viande. Il dit, remettez encore 7 jarres pour bien montrer que c'est pas ça qui va empêcher Dieu de réaliser son sacrifice. Puis finalement, au moment où lui, Élie va prier, Dieu va descendre sur le sacrifice, consommer le taureau qui a été sacrifié. Et tout le peuple va mettre un terme à la vie de ces faux prophètes aussi, suite à ça. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était des charlatans. Mais c'est surtout son lien avec la tour de Babel qui me paraît le plus marquant. Dans ce récit et celui des Actes, il est question de nombreux peuples rassemblés, les foules là, dont on a parlé pour les Actes des Apôtres. Dans la tour de Babel, c'est le monde entier qui est rassemblé autour de cette tour. Il y a des langues multiples. Alors comme vous disiez, c'est qu'il y a à la fin de la tour de Babel, c'est une dispersion, il y a plein de langues qui vont diviser le peuple en plein de petites parties. Et là, c'est toutes les langues qui vont se réunir, se retrouver et se comprendre autour de la maison des Actes des Apôtres. Il y a aussi un Dieu qui descend du ciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la tour de Babel, mais Dieu va descendre voir ce qui se passe en bas. Pourquoi il y a une telle agitation? Pourquoi les hommes se sont réunis pour construire cette grande ville? Et il va être interpellé par ce qu'il va voir. Il est même question d'un feu. Dans la tour de Babel, ce feu, il va être utilisé pour fabriquer les briques. On va utiliser le feu, mais le terme feu est utilisé explicitement, comme dans les Actes des Apôtres. Donc autant de points qui ne laissent plus trop de doutes sur la correspondance entre les deux textes, et même le désir que Luc a voulu de lier les deux textes. Au pied de la tour de Babel, tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Il s'agissait d'un seul peuple bien uni. Ce peuple était d'une force considérable. Il a bâti une tour immense et majestueuse en se servant de ce feu qui n'est pas sans rappeler déjà la présence du divin. Même Dieu dit en voyant la tour, « Aucun projet, aucun dessein ne sera à présent irréalisable pour eux. » Vous imaginez ce Dieu qui peut dire ça d'un peuple uni qui dit « Maintenant, aucun projet ne sera à présent irréalisable pour eux. » Ils sont capables de tout faire. Et cette puissance-là, c'est Dieu qui leur a donné. Hein. C'est Dieu qui donne à ce peuple de pouvoir faire des choses incroyables, inimaginables. Et il dit « Ils ont maintenant cette force en eux de pouvoir faire des choses qui étaient inconcevables avant. » Et leur projet de ce peuple uni n'était pas mal du tout, hein. Se hisser à l'égal de Dieu et se faire un nom. L'expression « se faire un nom » est bien présente dans la tour de Babel. C'est ambitieux et je crois que c'est bon pour un peuple d'avoir de telles ambitions. De vouloir, alors peut-être pas se faire l'égal de Dieu, mais au moins de se faire un nom, de vouloir se manifester, de pouvoir être présent et être connu. Le problème, c'est d'avoir voulu faire ça sans Dieu. Ils n'ont pas proposé à Dieu ce projet. Ils ne l'ont pas invoqué, ils ne l'ont pas invité à construire ce projet avec eux. Ils ont utilisé les forces que Dieu lui donnait à ce peuple, en particulier en utilisant ce feu, mais ils ne l'ont pas invité dans ce projet. Alors, pour punir leurs entreprises orgueilleuses, Dieu va faire trois choses. Il confond leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus. Il les disperse sur toute la terre et il les empêche de bâtir la ville. Donc, une ville qui semble être bonne en soi. Mais il les empêche parce qu'il manque quelque chose. La dispersion, la confusion des langues est un véritable châtiment. Et on en souffre nous-mêmes encore aujourd'hui. Cette dispersion des langues, de cette confusion des langues, on essaye de faire des ponts. C'est pour ça qu'on essaye d'apprendre l'anglais tant qu'on peut, d'apprendre l'allemand, d'apprendre à mieux parler français aussi, pour pouvoir nous unir davantage, pour pouvoir nous comprendre. Même dans l'église, là, un frère, le frère Serge Thomas Bonino, disait il commence à y avoir un petit problème. Parce que d'une part, on n'a plus ce latin qui nous unit, donc on n'a plus les mêmes langages, et souvent dans le vocabulaire, on a du mal à s'entendre. Et dans la théologie, puisqu'on s'est éloigné beaucoup de saint Thomas d'Aquin, qui nous unifiait beaucoup par sa théologie et sa doctrine très claire, petit à petit, même entre théologiens, maintenant, on ne s'entend plus. Parce qu'on n'a plus les mêmes vocabulaires pour désigner les mêmes choses. Et bah, ça peut participer à ça. C'est, enfin, on voit qu'il y a des conséquences. Plus on, moins on fait attention à avoir un vocabulaire commun et à essayer de travailler sur ces langues, et plus on se disperse et on ne se comprend plus. Et donc la théologie empathie, par exemple. Et nous, notre unité mondiale, elle empathie aussi. Elle prive l'homme, on le voit aujourd'hui, mais on le voit dans le texte, d'une force commune qui permettait pourtant de faire du grand et du beau. Le passage des Actes des Apôtres prend, comme vous le disiez, exactement le contre-pied de tout ce que nous venons de dire. Enfin, et on est rassuré. Il faut, ça c'est Benoît XVI qui nous rappelait ça. La parole de Dieu, elle est performative, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des conséquences dans notre cœur. Cette histoire de la tour de Babel, c'est pas un conte pour les enfants. Elle est mise sous forme de mythe et d'histoire, mais elle est censée aussi toucher notre cœur et le briser. Et il faut que vous sentiez qu'on était un peuple uni et très fort, et qu'on a été cassé dans cet élan, et qu'on en souffre. C'est comme d'avoir été rejeté du paradis. Il faut que quand vous relisiez ces passages de la Genèse et de Adam et Ève qui ont commis ce péché, il faut que vous arriviez à ce que vous en soyez, que vous en souffriez, que ça vous interpelle du fond de votre cœur. Si ça ne change rien dans votre vie, alors la Bible, ça veut dire qu'elle n'a pas sa place dans votre cœur. Et donc Dieu ne va pas pouvoir vous parler, parce que tout ce que vient faire Jésus, c'est réparer ce qui a été fait et ce qui a été raconté au début de l'Écriture. Alors, on est là pour ça, nous, les frères. Mais il faut que vous arriviez, en lisant ces passages-là, disiez, je referme la Bible, est-ce que ça m'a touché ou pas? Si ça ne m'a pas touché, alors je réouvre et j'essaie de trouver des choses qui m'interpellent. Pour pas que ce soit informatif, c'est pas une information qui vous est donnée, ça doit être performatif. Ça doit vous transformer à chaque fois que vous lisez l'Écriture. Donc, il y a un problème, et il y a quelque chose de pénible dans ce qui s'est passé à cette tour de Babel, et qui a touché le peuple. Adam et Ève, c'était particulier, c'était individualisé. Là, après, il y a l'histoire de Caïn et Abel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une souffrance dans la fraternité. Et après, il y a l'histoire de la tour de Babel. Là, c'est le peuple qui est humilié et qui est le péché va le toucher dans son corps, dans cette unité de peuple. Avec un même vocabulaire, l'auteur de la première lecture remonte le processus qui a conduit à la division et à la dispersion du peuple de Dieu. Il annonce ainsi la fin de ce drame communautaire originel. Par l'Esprit, Dieu réunit de nouveau les foules. La dispersion cesse. Tous les peuples, en entendant l'Esprit, se rassemblèrent en foule, nous dit les Actes des Apôtres. Dieu donne aussi par l'Esprit un remède à la confusion des langues. Toutes les langues étaient là, mais tous comprenaient les Galiléens parler. Et si deux effets du châtiment initial sont relevés, il est sous-entendu donc que quoi?
Le troisième est possible.
Bah oui, que le troisième va pouvoir être relevé aussi. C'était quoi les trois points?
Pas pu construire la ville.
La langue, la dispersion et la ville.
Et la reconstruction de la ville. Et ben voilà. Le peuple va pouvoir à nouveau construire une ville, mais avec Dieu désormais en son centre. Une ville qui montera jusqu'aux cieux, comme c'était prévu. Une ville qui était censée être un projet irréalisable à la base. On a là déjà l'annonce de la construction de cette nouvelle Jérusalem dont il est question dans l'Apocalypse. De notre Église vivante et immaculée. Cette construction d'une ville... Alors il faudra relire le passage de l'Apocalypse qui n'a pas de temple en son centre, mais parce que le Saint Jean dit c'est Dieu qui est présent au milieu de cette ville et qui l'habite. Et il n'y a pas besoin d'un temple particulier parce qu'il va être au cœur de cette ville et au milieu de chacun de ceux qui sont présents. On a reçu à nouveau, et maintenant il faut qu'on le vive, c'est qu'on a reçu ce don de l'Esprit Saint qui va nous permettre de bâtir cette église. Et on va voir comment. Si nous percevons avec enthousiasme le relèvement du puissant peuple de Dieu en ce jour de Pentecôte, le passage des Actes des Apôtres nous montre aussi comment cela se passe. Acte 2 utilise à deux reprises le verbe « remplir » en lien avec l'Esprit. Le premier est employé pour la maison. La maison fut remplie tout entière. Et un peu plus loin, on lit que tous furent remplis d'Esprit Saint. L'Esprit réalise donc deux choses. Il donne une mesure individuelle. Une langue s'est posée sur chacun des apôtres qui étaient dans la maison. Vous avez reçu, dit saint Paul, un esprit qui fait de vous des fils et qui vous fait vous écrier Abba. Ce don de l'esprit, il a été individualisé. Vous avez reçu chacun, et en particulier à la confirmation, un don de l'esprit qui vous est spécifique et qui a été particularisé pour vous spécialement, qui a transformé votre âme, qui ne l'a pas rendu identique à toutes les autres, mais qui est venu le transformer de l'intérieur sans changer votre nature. À cela s'ajoute un don communautaire pour toute la maison, qui est simultané au premier don. Un seul esprit, mais un double don, personnel et communautaire, l'un n'allant pas sans l'autre. Si vous êtes convaincu d'avoir reçu l'Esprit Saint, vous devez sentir aussi dans votre propre vie votre lien nouveau avec l'Église. Il y a une transformation individuelle, mais qui vous rend participant de cette vie de l'Église immédiatement. Et vous ne pouvez pas vivre votre vie de chrétien personnellement sans votre unité et votre union avec, avec l'Église. Et l'Église ne peut vivre sa vie de ecclésiale sans qu'il y ait ce lien particularisé en chacun de vous. Elle doit reconnaître en chacun de vous un charisme particulier qui va aussi la nourrir. Les deux vont ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas, et c'est un peu perturbant, quand tous ces jeunes reçoivent la confirmation et que le lendemain, ils disent bah, « ça y est, j'ai tout fait », et qu'ils ne participent plus à rien dans l'Église. Il y a quelque chose de loupé. Mais cette présence de l'Esprit, elle va les conduire petit à petit dans cet univers ecclésial. Alors, que pouvons-nous discerner dans nos cœurs de cette révélation de la Pentecôte et du don de l'Esprit aujourd'hui? On va recevoir spécialement ce soir, on va vivre dans la liturgie. Qu'est-ce que ces lectures que nous aurons ce soir et que nous avons eues maintenant nous apportent? C'est, je pense, un appel à redécouvrir le lien intime entre la présence de l'Esprit en nous et sa présence dans l'Église. L'Esprit, en nous rendant saints par sa présence, nous conduit nécessairement à vouloir être membres vivants et participants de son Église. C'est peut-être l'occasion, ce pèlerinage, de vous reposer la question de votre place dans l'Église. Premièrement, quel est ce charisme que vous avez reçu? Quel est ce don, ou ces dons, on peut en avoir plusieurs, que vous avez actuellement, qui ont été mis en valeur par l'Esprit en vous, en sachant que ce charisme qui est donné est pour vous, mais aussi pour votre prochain. Il y a souvent un don qui est fait par l'Esprit qui n'est pas forcément pour vous, mais qui est d'abord pour ceux qui vous entourent et pour la construction et l'établissement de l'Église. Alors, quel est ce charisme que vous avez reçu? Et ça, vous pouvez aller relire saint Paul, il fait des listings des charismes qu'on peut avoir, le charisme de l'enseignement, le charisme de la joie, le charisme d'apporter la paix, le charisme... qu'est-ce qu'il y a d'autre?
La prophétie.
Le charisme de prophétie.
La glossolalie.
La glossolalie. Le trapéli, c'est le joyeux des autres. Comment?
La foi. On parle du charisme de la foi.
De la foi. Avoir une foi qui a dépassé le mental.
Communicative.
La prophétie, non? Le charisme? Ah oui, on l'a déjà dit.
Ouais.
La guérison, on sait pas ça.
La guérison.
On en parlera ça.
Et comment vous pourriez le mettre en valeur pour ceux qui vous entourent? Si vous avez reçu ce don, le Seigneur vous demandera des comptes de ce don que vous avez reçu. Et à votre niveau, hein, on est tous timides. Donc ça, c'est normal qu'on ait du mal à aller s'engager, à aller proposer nos services. On se remet souvent en doute, en cause, en se disant « je ne suis pas capable de faire ça ». Moi-même, comme religieux, ou la première fois qu'on m'a demandé d'aller donner des cours de cathé dans une école, j'ai dit au frère, mais je ne suis même pas sûr de ma foi, alors comment voulez-vous que j'aille? Pourtant, j'étais déjà dominicain, mais en fait, en me mettant ce coup de pied au derrière, en me disant, de toute façon, tu y vas, tu n'as pas le choix, ça a été l'occasion pour moi de mettre en valeur ces dons que j'avais reçus. Chose que je n'aurais pas fait si j'y avais pas été envoyé. Bon alors c'est pareil pour vous qui êtes présents. C'est la question de se dire, bon, peut-être qu'elles sont c'est très petit, très fragile, mais j'ai quelques qualités. Et où est-ce que je pourrais m'engager pour pouvoir les mettre en valeur et pouvoir mettre ces dons au service d'autres? Et en sachant que l'Église, elle a besoin de ces dons que vous avez reçus et qu'elle ne va pas avancer sans vous. Et pour vous rassurer, le pape François disait, je préfère une Église qui boite, mais qui fait des choses, qu'une église qui ne fait rien et qui pourrit sur elle-même, qui moisit. Donc mes premiers cours de cathé, c'était catastrophique. Hein. mais a posteriori, le pape a dit, bah, c'est bien, j'ai préféré que tu fasses n'importe quoi avec tes cours de cathé, mais que tu étais là et puis que tu essayais de te dépatouiller avec tes élèves, c'est insupportable, que plutôt que tu sois au couvent en train d'étudier. Et finalement, à moisir en quelque sorte, hein, on pourrit un peu sur place. C'est qu'on a besoin d'étudier, c'est important, mais il faut aussi mettre cette étude à l'épreuve de la rencontre avec les autres. Et ça, Saint-Dominique le disait aussi, quelques temps, très peu de temps après le début de la mise en place de son ordre, ils étaient une dizaine, et il les a divisés, il les a séparés deux par deux en disant, toi tu vas à Paris, vous deux, vous allez à Paris, vous deux à Rome, vous deux en Espagne, et puis il y en a quelques-uns qui restent avec moi. Et les autres ont dit, mais t'es fou, si on se sépare, on va disparaître, notre ordre ne va plus exister. Et il a dit, si le tas de grains reste comme ça, il pourrit. Si on ne le disperse pas, il ne portera pas ses fruits. Donc allez-y, faites-moi confiance, le Seigneur m'a inspiré ça, et en fait ça a très bien marché, parce que les deux à Paris... sont allés à l'université et puis ils ont attiré plein de gens, à Rome pareil et en Espagne pareil. Voilà, et si ce désir spirituel ecclésial n'est pas encore parfait en vous, si vous n'en saisissez pas toute la beauté, la dimension, ce temps de la Pentecôte est fait pour ça. Et justement, je pense que interroger en vous cette présence de l'Esprit que vous avez reçu, posez-lui la question, Esprit Saint, où est-ce que tu m'attends et où est-ce que tu m'as déjà conduit et je n'ai pas vu là où tu m'attendais, et aide-moi à aimer ton Église, à vouloir ton Église, à aspirer à ce qu'elle grandisse et qu'elle ait toute sa place, toute une place magnifique dans le monde. Je redécouvre, là, depuis pas longtemps, et ça, c'est des étapes de notre vie spirituelle. Il y a des moments où on est scotché devant l'incarnation du Christ. D'autres moments, c'est la Trinité qui nous épate, et pendant 4 ans, on est complètement inspiré par la Trinité. Moi, j'ai la grâce en ce moment d'être très marqué par la redécouverte de l'Église, la valeur, la force de l'Église. Et en particulier, c'est l'Épître aux Éphésiens, qui est une des épîtres qui parle d'une manière extraordinaire de cette Église. Et justement, ce Jésus qui est donné à l'Église, c'est très étonnant. C'est pas juste Dieu qui fait une faveur à un peuple en disant « bon, bah, je t'accorde un peu de place ». C'est Dieu qui se donne à cette Église. Et l'Église est un écrin peut-être un peu fragile, mais qui a dans ses mains la puissance de Dieu. Et ça, c'est fait, c'est donné et reprendre, c'est voler. Jésus est donné à cette église. Et alors à nous maintenant de le donner, ce Jésus. Alors quand Jésus dit à Saint-Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, c'est une sacrée parole. Ça veut dire que quand Saint-Pierre dit quelque chose, Dieu dit, c'est peut-être un peu bizarre, mais moi je me lis à ce qu'il a dit. Et quand Saint-Pierre ouvre les mains pour donner un sacrement, Dieu, vous pouvez être sûr qu'il est là. Quand un prêtre vous absout de vos péchés, vous pouvez, au moment où il dit la formule ecclésiale, il y a vraiment Dieu qui vous pardonne les péchés. Il s'est engagé à faire ça. Et à aucun moment où Dieu dit, non, là, j'ai pas envie. Je le fais pas, je lui pardonne pas ses péchés. C'est vrai, c'est un prêtre, mais il y a aucun moment à une messe, où même si le prêtre est le pire des gars, où Dieu dit, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de passer par ses mains. S'il dit ses formules sacrées, de consécration du pain et du vin, y a le corps et le sang du Christ qui sont présents. Dieu s'engage là. Donc il y a un mystère étonnant à voir et à vivre aussi de cette présence de Dieu au milieu de nous, dans cette église, qui passe par vous. Voilà.